Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à cette deuxième de trois rencontres. Aujourd'hui, Catherine Vallée, je vais vous présenter Catherine Vallée pour commencer. Parce que Catherine va m'assister pour la journée d'aujourd'hui, un peu comme facilitatrice pour les périodes de questions et aussi pour s'assurer qu'on reste dans le temps. Est-ce que pour la traduction, Larry, est-ce que ça fonctionne? Oui. Il dit oui, parfait. Alors, je vous rappelle que tout ça est enregistré pour des fins éducatives et non commerciales. Et puis, sans plus tarder, ben, je vais demander à Catherine de venir vous présenter un peu comment la journée va se dérouler, pendant que moi, je vais distribuer les pochettes aux participants. Merci et bienvenue.
Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Je vais peut-être parler brièvement de mon rôle. Je sais que Jean-François va distribuer les pochettes, alors je pourrais parler un petit peu de l'horaire par la suite. Essentiellement, étant donné que Jean-François est très impliqué dans les présentations, tout ça, mon rôle va être de garder le temps et de m'assurer que les personnes qui, par exemple, nous suivent sur le web, s'ils ont des questions ou des commentaires, je vais être vigilante pour les rapporter au grand groupe. Donc, mon rôle, c'est de surveiller le téléphone, le web et ce genre de choses et de tenir le temps. Par conséquent, quand il y aura des périodes de questions, je vais circuler avec des micros. Et même si vous vous entendez dans la salle et que vous sentez que vous n'avez pas besoin d'un micro, on doit quand même parler dans le micro parce que c'est la seule façon que les gens sur le web peuvent entendre vos commentaires ou vos questions. Alors, ça fait un peu formel, mais ça va être comme ça. Alors, si vous prenez votre pochette, dans le côté droit de votre pochette, vous avez les résumés des travaux qu'on a eus jusqu'ici. Alors, par exemple, vous avez comme premier document au-dessus de la pile à gauche l'ordre du jour de la rencontre du 8 avril, ainsi que deux annexes qui ont été présentées lors de cette journée-là. Le projet, le cadre de partenariat de la chaire CASIS, ainsi que le questionnaire dont nous avions discuté. Vous devriez en avoir une version en anglais et en français. Par la suite, vous avez un document broché qui est en fait le certificat de la demande d'approbation éthique qui a été réalisée auprès de McGill. Et à la fin, bien, vous avez essentiellement le document d'introduction qui résumait un peu l'intention du projet où on est actuellement. À votre droite, vous avez l'horaire de la journée avec les présentations qui vont suivre. Alors, l'horaire de la journée, essentiellement, une fois qu'on aura terminé la logistique, Jean-François va présenter les résultats du sondage et des focus group pendant une demi-heure. Il va avoir une brève période de 15 minutes où on va réagir ensemble. Par la suite, M. Larry Davidson va nous présenter une présentation sur... je vais le laisser aller, mais enfin, Larry fera une présentation sur son comment il travaille le rétablissement dans un de ses projets de recherche. Il y aura une période de questions. Nous aurons une pause et par la suite, nous travaillerons en petits groupes. Ceci étant dit... nous sommes un peu présentés informellement dans le corridor, mais pour les fins du web et pour les fins de mettre des noms sur le visage, il serait peut-être intéressant qu'on se représente pour qu'on sache qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Alors, je vais de ce pas chercher des micros et me promener dans la salle. Excusez-moi.
Justine Thibault, personne à l'établissement de l'Association québécoise de l'habitation psychosociale.
Alain Routier, personne en rétablissement, aussi de la QRP.
Nancy Leblanc, personne en rétablissement du Comité national santé mentale travail.
Michel Perrault, chercheur au Douglas. Merci.
Sonia Côté, est-ce que ça marche le micro?
Ça marche pour le web, alors tu parles fort quand même.
OK, d'accord. Alors, chef du programme de réadaptation psychosociale et d'hébergement spécialisé à l'Institut Douglas.
My name is Anne McCauley and I'm director of a new center participatory research at McGill.
I'm John Salzberg. I'm associate director of participatory research at McGill.
Thank you.
Alain Lesage, centre de recherche Fernand Séguin, chercheur.
Jacques Hendlis, executive director of Douglas Institute.
Bonjour, je m'appelle Mira Piat, je suis chercheur à l'Institut Douglas.
Morning, Larry Davidson. I'll be speaking in a little while.
Good morning, Stephen Fry, the State of Connecticut Department of Mental Health and Addiction Services, and also a person in recovery from mental illness.
Thank you.
Bonjour, je m'appelle Bernard Saunier et je suis une personne en rétablissement.
Luc Legris, conseiller clinique à la direction des services d'adaptation et d'hébergement dans la communauté à Louis H. Fontaine.
Abigail Gumali, personne en rétablissement.
Marie-Thérèse Dufresne, personne utilisatrice en rétablissement et participante à plusieurs comités.
Mireille Voyer, je suis membre du panel des usagers de l'Institut Douglas. Et je suis une personne en rétablissement.
Merci à tous. J'aimerais vraiment souligner la présence parmi nous de M. Davidson, mais aussi de M. Fry, qui joue un rôle particulier au sein du système de santé au Connecticut. Et c'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. J'espère que durant les pauses, vous profiterez des pauses pour entrer en contact avec lui. C'est une richesse. Alors, ceci étant dit, je vais céder la parole à Jean-François.
À toi le micro.
Merci, Catherine. Alors, pour vous rappeler par rapport à la première rencontre, que le tout avait été enregistré sur vidéo. Et puis, quand ça sera prêt, on pourra vous faire suivre le lien Internet qui va mener à toute la documentation, à la fois visuelle, audio et aussi les textes des présentations qui ont eu lieu le 8 avril et celles qui seront faites aujourd'hui vont être offertes en français et en anglais. Donc, on avait eu Louise Potvin, Jeffrey Nelson, John Salzberg. On avait les gens du Connecticut aussi en visioconférence. Et puis, ça, c'est une image tirée du focus group qui a été tenu le 11 juin dernier. Alors, mon rôle ici aujourd'hui, ça va être de vous présenter les résultats des sondages. Vous avez avec vous l'annexe 2 qui a été utilisée à cette fin et qui a aussi servi comme grille d'entrevue pour le focus group. Et il y a un certain nombre d'entrevues aussi qui ont été faites avec la plupart des personnes qui sont réunies ici aujourd'hui. Donc, le focus group a eu lieu le 11 juin. C'était en vidéoconférence avec 3 participants de Québec, 3 de Montréal et une personne au téléphone. Les utilisateurs de services se sont fait alors présenter les résultats du sondage auxquels ils avaient répondu. Donc, vous voyez ici un extrait que vous avez également dans votre pochette. Il s'agit des guidelines de la Société royale du Canada qui ont été élaborés il y a déjà quelques années. On les a adaptés pour en faire un instrument de collecte de mesures. Initialement, ça servait pour les évaluateurs de projets à vérifier jusqu'à quel point un projet de recherche qui leur était soumis avait un caractère participatif. Et nous, l'idée de, d'utiliser cette grille-là, c'est de pouvoir faire en sorte que notre propre processus puisse être de plus en plus participatif dans le temps. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ce processus-là va s'échelonner sur non seulement plusieurs mois, mais probablement sur plusieurs années. Fait que l'idée, c'était un peu d'avoir une espèce de photographie du moment un peu zéro, on pourrait dire. C'est pour ça qu'il y a certaines questions pour lesquelles il y avait ça ne s'appliquait pas nécessairement dès le début du processus. Mais on va refaire l'exercice au début de l'automne, si vous voulez bien continuer à participer, pour voir dans quelle mesure on a réussi à être de plus en plus participatif. Donc, l'idée, c'est un petit peu de cibler ici, là où on a déjà certains acquis et là où on devrait consentir plus d'efforts pour faire en sorte que, en particulier, les utilisateurs de services puissent être réellement mis à contribution dans un processus qui est toujours très abstrait, très complexe que celui de la recherche. Alors, ce qui s'est dégagé essentiellement de la première rencontre, je pense que c'est une volonté de tous les autres intervenants, chercheurs, cliniciens ou administrateurs, de faire en sorte que le groupe, en particulier d'utilisateurs de services, comprenne le temps d'expliquer le processus, comprenne le temps de se présenter les uns aux autres, pour faire en sorte que graduellement, ça devienne de plus en plus leur propre projet et éventuellement, dans le temps, il y aura des thématiques de recherche qui pourront émerger de ce premier groupe-là, des utilisateurs de services. Donc, on s'est servi de cette grille-là, qui est subdivisée en 6 grandes composantes. Vous les voyez à l'écran. Alors, vous avez compris que ce qui est en bleu et italique est en anglais, et ce qui reste en noir est en français. Alors, cette présentation a l'avantage d'être plutôt bilingue. Sauf en ce qui concerne les extraits que vous voyez au bas des pages, en vert et en italique, ça, ce sont des extraits à la fois du focus group et des commentaires reçus en entrevue. J'en ai pigé quelques-uns pour alimenter la discussion. Donc, je vous présente ici les résultats par groupe de répondants. Vous avez les chercheurs qui sont à gauche, les décideurs en second lieu, ici, le groupe d'utilisateurs de services et le total. Donc, j'aimerais beaucoup que vous puissiez avec moi interpréter ces distributions-là. L'important ici, ce n'est pas tellement les chiffres eux-mêmes, parce qu'avec un N, il y a eu 15 répondants sur une possibilité de 18, c'est donc aux alentours de 84% d'acceptation de participer à cette dimension recherche du processus. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est la distribution par groupe de répondants qui va nous interpeller. Et vous allez voir, ma présentation est construite de cette façon-là. Donc, la première question, c'était « La collectivité où se déroule la recherche est clairement décrite ou définie? » Alors, vous voyez, ça saute aux yeux, que pour les chercheurs, c'était moins clair. De quelle collectivité on parle? Parce que dans les guidelines originaux, à l'origine, c'était pour des projets d'intervention en promotion de la santé où les collectivités se définissaient davantage géographiquement. Dans un quartier de Montréal, par exemple, supposons Montréal-Nord. Mais c'est, évidemment, on stipulait aussi que les collectivités pouvaient concerner un groupe d'intérêt. Nous, c'est un petit peu ça, notre collectivité. On est réunis ici aujourd'hui. Je pense que ce qui fait qu'on est réunis, c'est pour un peu intégrer les principes et valeurs du rétablissement en contexte de recherche en particulier. Puis notre collectivité va éventuellement devenir un comité aviseur d'une recherche que je vais vous proposer un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, pour les utilisateurs de services, la collectivité semblait quand même assez bien définie. Pour les chercheurs, beaucoup moins. Puis les décideurs, ils étaient un peu entre ces deux groupes-là. Est-ce que vous auriez des commentaires sur cette première distribution quant à la première question? Les spécialistes là, en interprétation des graphiques. Je vois Alain qui a envie de dire quelque chose.
Évidemment, comme chercheur, je n'oserais pas passer des commentaires sur les intervalles de confiance et des choses comme ça. Mais ce n'est pas ce type d'analyse-là qui s'agit. Il s'agit quand même d'un nombre de personnes là, qui c'est une analyse de contenu. Et puis, les gens sont là pour être représentatifs de leur milieu. Alors, il faut quand même noter que, mais comme chercheur, effectivement, c'est... au fond, je pense que ça illustre que ça représente un défi. Ce à quoi on est convoqué actuellement. On est peut-être moins habitué à ce type de recherche avec dans le cadre dans lequel on se trouve et la communauté ou la collectivité qu'on veut définir ici.
Merci. Donc, un tel aperçu va nous permettre, nous, éventuellement, de pouvoir mieux définir de quelle collectivité on parle, puis éventuellement, on pourra constater que sur ce plan-là en particulier, on le souhaite améliorer avec le temps. Donc, on a 25 points comme celui-là, donc je vais y aller relativement rondement. La question 2, les membres de la collectivité concernée qui participent à la recherche sont préoccupés ou ont expérimenté le problème investigué. Quelqu'un a dit, puisqu'il s'agit d'une première, personnellement, je n'ai pas d'expérience de recherche sur la place des personnes en rétablissement en contexte de recherche. Par contre, il y a d'autres commentaires qu'on a eus qui disaient que les personnes en rétablissement ont une connaissance très intime de ce que peut représenter justement le rétablissement et l'inclusion dans la communauté. Donc, on voit encore une fois une distribution similaire à la première, où les utilisateurs ont l'impression qu'ils ont quand même une certaine expérience de ces enjeux-là. Des commentaires sur cette deuxième dimension, peut-être? Ça va? Troisièmement, les membres intéressés de la collectivité concernée ont l'occasion de participer au processus de recherche. Quelqu'un a dit, ça ne me surprend pas que ce soit si fort, parce que dans le focus group, on regardait les résultats au sondage des personnes en rétablissement. Donc, ces personnes-là étaient appelées à un peu interpréter leurs propres résultats. Puis, on constatait que c'était assez fort. C'est pour ça que nous sommes là. Ça prouve notre intérêt. Donc, vous voyez encore une fois que les utilisateurs de services ont accordé plus de 80% pour cette question-là, concernant qui ont l'occasion de participer au processus de recherche. Puis moi, ce que j'ai cru constater en entrevue, c'est que pour nombre d'entre eux, il y a beaucoup d'espoir d'associer un tel processus. Ils ne sont pas vraiment habitués, je pense. Peut-être que quelqu'un du groupe pourrait mentionner quelque chose. Moi, j'ai cru constater beaucoup d'espoir, puis... que les gens, justement, souhaitent pouvoir participer à ce processus-là. Est-ce que Alain, peut-être, ou Nancy, ou n'importe qui d'autre?
Ben c'est ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on connaît pas vraiment, qu'on entend souvent parler. Fait que, oui, c'est sûr que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, mais surtout, et avant tout, c'est intéressant de savoir qu'on peut y participer autrement qu'en tant que cobaye. C'est ça, c'est comme on est vraiment participatif avec les chercheurs, fait que je trouve ça intéressant.
Merci.
Justin Thibault. Pour une fois, on n'est pas juste l'objet de la recherche, on va pouvoir y participer à part entière. Mm-hmm. C'est ça qui est nouveau, puis c'est ça qui est intéressant.
D'accord. Donc, je pense que ça donne un bon aperçu vraiment de ce que moi j'ai pu constater en faisant les entrevues à la fois le focus group. Il y a donc beaucoup d'espoir, puis on est un peu, les instruments dont on se sert vont nous permettre un peu, vont permettre à toutes les personnes de faire le suivi sur ce processus-là, voir jusqu'à quel point on va au-delà des bonnes intentions pour éventuellement atterrir dans quelque chose de très concret, avec des méthodologies éventuellement plus complexes où là, ça sera facile de perdre notre monde, fait que j'espère que vous allez m'aider un peu à rester vraiment focusé sur cette participation-là. Et on espère que les outils utilisés vont nous y aider. Quatrièmement, on se préoccupe des obstacles à la participation communautaire et on accorde une attention particulière aux membres de la collectivité qui ont été sous-représentés par le passé. Quelqu'un a dit, « Moi, quand je pense à la sous-représentativité, je pense à des gens qui ont 25 ans. Les plus jeunes ont peut-être une autre vision. » D'autres personnes ont répondu que oui, on avait pris la peine d'essayer de lever des obstacles à la participation des groupes sous-représentés, mais on constate également peut-être que d'autres acteurs auraient pu être invités à se joindre à nous. Puis on pense ici, dans ce cas-ci en particulier, aux plus jeunes. Donc, quelqu'un avait cru constater qu'on pourrait consentir plus d'efforts à cet égard-là. Ça va? Cinquièmement, on se préoccupe de faire comprendre au sein de la collectivité l'engagement des chercheurs face aux problèmes investigués. Alors, si on regarde la distribution, les chercheurs considèrent qu'on n'a pas tellement parlé de ce que les chercheurs font dans le processus jusqu'à maintenant, quels sont leurs intérêts, leurs espoirs. Par contre, les décideurs, eux, considèrent que c'est un projet qui est grandement associé aux préoccupations des chercheurs. Et puis, bien, les utilisateurs de services sont un peu entre ces deux groupes-là. Alors, on voit des différences de perception quand même assez significatives. Quelqu'un disait, quand j'ai compris qu'il y avait une recherche qui nous examinait en processus de recherche participative, j'ai dit, ah, je viens de comprendre, on n'est pas encore en recherche, on la prépare. Donc, le but de nos trois premières rencontres, c'est vraiment de mettre la table, de convenir d'un mode de fonctionnement ensemble, puis plus tard, à l'automne et à l'hiver, on va pouvoir vous présenter un projet de recherche en bonne et due forme, mais à ce stade-ci, c'est vraiment de préparer les choses. Sixièmement, on donne aux participants de la collectivité la possibilité de mettre leurs ressources physiques ou intellectuelles ou les deux au service de la recherche. Je vous laisse constater la distribution qui est plus égale. Quelqu'un a dit, pour la première fois, nous ne sommes pas seuls sur la lamelle. Nous sommes aussi à l'autre bout du microscope. Donc, vous vous rappelez peut-être à la première rencontre, il était apparu cet élément-là, peut-être une recherche sur le processus de la recherche. On utilise certains outils, mais en fait, ce n'est pas en dehors de la recherche. C'est pour nous permettre, comme le disait Louise Potvin, d'être plus réflexif par rapport à la recherche elle-même, pour faire en sorte que ceux qui traditionnellement étaient étudiés, faisaient l'objet de la recherche, bien, sont conviés à être, avec les chercheurs, les décideurs, à être au bout, en haut du ce qu'on pourrait considérer un microscope qui observe le processus. Donc, dans un processus de recherche participative, le principe de l'Integrated Knowledge Translation, ce qu'on appelle la traduction, l'application des connaissances intégrées, veut que ce type de réflexion-là fasse partie intégrale d'une démarche de recherche et ne soit pas seulement qu'un à côté. Des commentaires sur cette dimension-là? Donc, pour l'ensemble de la première dimension, en ce qui concerne les participants et la nature de la participation, vous pouvez constater avec moi une distribution quand même assez uniforme, malgré certaines différence bien marquée quant à des questions bien précises. Vous me suivez toujours? Ça va? Nous allons aborder la deuxième dimension en ce qui concerne l'origine de la question de recherche. La recherche a été provoquée par la collectivité concernée. Quelqu'un a répondu, no, it came from the academic community. Tout simplement, non, la recherche ne provient pas de la collectivité, mais bel et bien du groupe de chercheurs. Et je peux vous dévoiler que l'idée initiale, c'était évidemment la mienne. Puis on voit que les décideurs n'ont pas été dupes de cette situation, si on peut dire. Ils ont bien vu que l'origine de la question n'est pas notamment de ce groupe-là en particulier. Les utilisateurs de services, vous voyez, à l'autre extrême, si on peut dire, quand on décrivait un petit peu le comité aviseur, la collectivité, en disant que nous faisions tous partie de cette collectivité, bien, ils ont dit, même si l'idée initiale vient d'un des chercheurs, mais il est quand même membre de cette collectivité-là. C'est peut-être ce qui explique qu'on est scoré assez fort à ce niveau-là de la part des utilisateurs de services. Les membres de la collectivité concernée appuient la recherche proposée. Quelqu'un a dit, « There was a lot of commitment there, but there was some reluctance about what it would mean. Would it be valued? Would it make a difference? And again, they seemed to be very sensitive. Were the right people there? » Donc, quant à cette question-là, on se demande est-ce que pour aborder ce type de problématique-là, toutes les personnes qui devraient participer à cette réflexion-là ont-ils été invités? Sont-ils autour de la table? Ce qui amène certains à penser que peut-être le soutien d'une éventuelle recherche pourrait bénéficier de l'apport de ces nouveaux partenaires-là. Donc, vous voyez que de la part des décideurs, si on peut parler un peu de on peut saluer la présence de Jacques Henlisch parmi nous aujourd'hui, par exemple. C'est des gens qui ont des agendas, vous connaissez, ou Sonia Côté aussi, et d'autres, des agendas très serrés, et qui n'est pas le même du tout que celui de la recherche. Et encore moins des utilisateurs de services, dans le sens que leur temps est compté à la minute près, je dirais. Excusez-moi. Parce qu'on attend, il y a le docteur Delorme, bonjour André, qui est à Québec, le directeur de la santé mentale, mais ce n'est pas lui à l'heure actuelle. Tu ne réponds pas, Catherine. Donc, juste pour vous dire, ça se peut que André Delorme nous appelle pour nous faire part de ses commentaires à lui et de ses questions. Qu'est-ce que je disais déjà? Donc, de la part des décideurs, leur présence aujourd'hui témoigne qu'ils appuient le processus de recherche. Et on les en remercie grandement. Donc, pour l'ensemble de cette deuxième dimension-là, vous voyez la distribution. Elle est beaucoup plus inégale que la première. Vous voyez? Un commentaire particulier sur cette distribution, peut-être? Quelqu'un? Ça va? But de la recherche, troisième dimension. La recherche peut faciliter chez les participants de la collectivité concernée l'acquisition de ressources individuelles et collectives favorisant leur autodétermination. La citation, « I think that this was well expressed. It definitely is one of its purposes. » Que la recherche puisse habiliter notamment les utilisateurs de services à prendre part au processus de recherche. Donc, vous voyez, les chercheurs, pour eux, c'est très clair que le processus devrait être en fonction de cet objectif. Mais les utilisateurs de services voient moins comment ils vont pouvoir participer davantage, faire en sorte que leurs ressources soient mises à contribution. Puis là-dessus, il y avait peut-être une... Ah, oui, j'ai une question. Marie, le micro s'en vient.
Moi, je me souviens quand on a fait le focus group, ici, là-bas, là, au mois de juin, on disait que c'était pas très bas comme score, mais c'était non applicable, not applicable. Ah.
Merci. Donc, on nous rappelle que dans ce cas-ci, étant donné qu'on est au tout début d'un processus de recherche, ça se peut très bien qu'à cette question-là, on ait considéré que ce n'était pas encore applicable comme questionnement. Puis, en ce qui concerne les ressources individuelles et collectives, on peut mentionner qu'on parle des ressources intellectuelles, mais aussi physiques. Éventuellement, la recherche pourrait avoir avantage, certaines des activités, à se dérouler dans des lieux autres que ceux typiquement associés à la recherche. Par exemple, le focus group, il y avait lieu dans une salle de l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, mais on peut penser que c'est peut-être pas le lieu idéal pour convier des utilisateurs de services dans un établissement psychiatrique en bonne et due forme. Donc, éventuellement, ça pourrait être souhaitable de faire en sorte qu'il y ait des activités qui se déroulent dans des endroits autres que ceux associés traditionnellement à la recherche. Dixièmement, la recherche peut faciliter la collaboration entre des participants de la collectivité et des ressources à l'extérieur de cette dernière. Alors, vous voyez, tout le monde a quand même scoré très fort à cette question-là. On espère que ce processus va faire en sorte qu'il y ait des gains qui soient aussi réalisés dans d'autres sphères d'activité. Comme la citation le suggère, c'est un côté intéressant de cette recherche, de participer dans des comités. Ça nous force un peu à faire travailler notre matière grise. Hein? C'est une occasion de pratiquer des habiletés en termes de prise de décision, de prise de la parole publique, ce qui, évidemment, peut éventuellement servir dans d'autres lieux. Onzièmement, la recherche a pour but d'habiliter la collectivité à prendre en considération les déterminants de sa santé. On se rappelle que la grille d'analyse proposée provient surtout du milieu de la promotion de la santé, où un des objectifs, c'est d'un peu de réduire les inégalités, les iniquités en matière de santé. Et ici, on essaie de transposer ça à la santé mentale. Donc, on espère que la recherche qu'on va pouvoir faire ensemble sur un mode participatif va faire en sorte qu'on puisse s'attaquer aux déterminants de la santé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on maintient une bonne santé mentale au-delà des considérations individuelles? Ça, c'est ce qu'on appelle les déterminants. I think this is going to be a very powerful, thoughtful learning experience for everybody involved. I think it's a real collaborative, mutual process that's going to strengthen everybody's knowledge and understanding. Douzièmement, l'envergure de la recherche permet d'aborder d'une quelconque manière des déterminants politiques, sociaux ou économiques de la santé. C'est un peu similaire à la question précédente. Oui, parce qu'il y a un docteur avec nous. On faisait ici référence au docteur Delorme, qui lui transfère en politique nos préoccupations, si on peut dire. Aussi, avec les directeurs d'hôpitaux et tout ça, on pense qu'on va être mieux à même d'aborder les déterminants politiques, sociaux ou économiques de la santé. Donc, voici la distribution pour le bloc 6 en ce qui concerne les buts de la recherche. On voit encore une fois des différences assez notables. Troisième dimension, les aspects méthodologiques relatifs au processus et au contexte. Le processus de recherche prévoit l'utilisation des connaissances des participants de la collectivité au cours des phases de planification, de réalisation et d'évaluation. Quelqu'un s'est bien aperçu, c'est qui l'a fait la planification? Jusqu'à maintenant, essentiellement, c'est le groupe des chercheurs, mais on espère pouvoir mettre en sorte, justement, des mécanismes faisant que tout le monde puisse avoir voix au chapitre en termes de planification, réalisation, et aussi d'évaluation. C'est un peu l'objectif ici aujourd'hui. On est là un peu pour, ensemble, voir à interpréter la distribution des résultats préliminaires au sondage. Le processus de recherche permet aux participants de la collectivité de faire des apprentissages par rapport aux méthodes de recherche. Vous voyez ici la distribution quand même très inégale. Les chercheurs qui connaissent par définition bien le milieu de la recherche savent qu'on a jusqu'à maintenant simplement qu'effleuré. Quels sont les enjeux méthodologiques de la recherche participative? Éventuellement, on va pouvoir parler aussi d'analyse qualitative quand on pourra ensemble aller plus loin. Et l'analyse qualitative pourrait se joindre à l'approche quantitative où là, ça prend un certain langage d'expert pour bien interpréter. Fait que les chercheurs sont plus conscients peut-être qu'on est qu'au tout début. Alors que les utilisateurs, de manière très importante, considèrent qu'ils ont déjà acquis certains apprentissages. Le fait d'être convié, le fait de se faire expliquer une dynamique de recherche comme celle-ci, c'est quoi les raisons d'être de focus group, comment qu'on utilise des entrevues, comment les résultats peuvent être présentés et interprétés ensemble. Bien, pour ceux qui ne sont pas du milieu de la recherche, c'est une nouveauté, On a l'impression que, même si on n'a fait que commencer, que déjà, certains apprentissages ont été réalisés. I'd like it to be more clear about what the intention or goal of research is and how I can better understand how my role really is. C'est un petit peu ce qui est ressorti par rapport à la première rencontre. On souhaitait un peu que les gens s'approprient le processus, mais ce dont on s'est aperçu, c'est qu'à ce moment-ci, c'est peut-être mieux de commencer avec une proposition plus claire pour que les gens aient une emprise sur un thème de recherche. Et sachant cela, on a modifié un peu l'ordre du jour d'aujourd'hui pour faire en sorte qu'on aborde ces questions-là, pour que les gens sachent mieux dans quoi ils s'embarquent selon une proposition qu'ils auraient faite, et avec le temps, les propositions pourront venir de d'autres acteurs. Le processus permet aux chercheurs d'apprendre quelque chose au sujet du problème investigué. Alors là, vous voyez, les décideurs et les utilisateurs considèrent, ou un d'entre eux a dit, « I strongly agree, you know. I think starting a dialogue with people who are affected by services, you're giving in some of the best information. » Donc, ce qui est ressorti aussi dans le focus group, les gens se sont dit, non seulement les utilisateurs vont apprendre sur ce que c'est que la recherche et aussi quelles sont les préoccupations des décideurs, mais on espère que l'inverse va être aussi vrai, que les chercheurs au contact des utilisateurs de services en particulier vont modifier un peu leur approche, vont être influencés, vont mieux comprendre les enjeux liés à la recherche. 16e, le processus permet d'adapter ou de modifier les méthodes ou l'objet de la recherche aux besoins. On voit que les décideurs se démarquent nettement. Le processus se veut effectivement assez souple, permettre cette adaptation-là. Les concours qu'on a ciblés sont vraiment très intéressants pour ça. Quand on s'aperçoit que les gens souhaiteraient qu'on aborde davantage telle ou telle thématique, bien, on a l'occasion de corriger le tir. J'ai déjà senti un souci de se réajuster dans le processus. Je pense que c'est assez clair. Probablement qu'il s'agissait d'un décideur ici. Je ne sais pas. 17. Des procédures sont prévues pour analyser les expériences en cours de réalisation de la recherche. Now, that's a good question. I think we have to pay attention to that. On l'a vu. Notre rencontre aujourd'hui sert un petit peu à ça. Mais quand on va réellement faire une recherche, on est en phase préparatoire. Si on décide de faire une recherche qui suivrait les guides, les principes dont on aura convenu ensemble, ça va être quelque chose qu'il va falloir bien définir et bien encadrer. Et ici, c'est un des chercheurs qui a mentionné que ça reste un défi de faire en sorte qu'on puisse analyser et corriger le cours d'une recherche. Parce que normalement, en recherche, on annonce d'avance à quel résultat on s'attend. On dit autant que possible d'avance qu'est-ce qu'on va faire selon quel calendrier, etc. Fait que de permettre un va-et-vient entre la recherche et les décideurs, faire en sorte d'intégrer dans la recherche cette dynamique-là elle-même, c'est un enjeu ça va prendre beaucoup de raffinement pour pouvoir bien le délimiter. 18. Les participants de la collectivité prennent part au processus analytique de la recherche, soit à l'interprétation, synthèse et vérification des conclusions. Vous voyez, encore une fois, une distribution très inégale. Quelqu'un a dit, je suppose que oui, avec ce que je vois pour l'instant. Pour l'ensemble de cette dimension-là, vous voyez la distribution. Les chercheurs se démarquent un peu. Les utilisateurs et les décideurs ont une distribution très similaire. 5e, sur les possibilités d'agir sur le problème investigué. Le processus de recherche tient compte du potentiel de la collectivité concernée à réaliser des apprentissages individuels et collectifs. Puis quelqu'un a dit, ah oui, 5/5. Alors, on voit déjà qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'impression que leur potentiel est mis à contribution dans le processus qui est en train de se mettre en place. Mais les chercheurs ont moins l'impression jusqu'à maintenant d'avoir une emprise sur le processus. 20e, le processus de recherche tient compte du potentiel d'action de la collectivité. Ah, les chercheurs ici, vous voyez, I think we're having decision makers at the table who are interested in action. Donc, les chercheurs qui ont constaté la composition de l'équipe de recherche même, avec André Delhomme comme décideur politique, par exemple, voit que la présence des décideurs dans un collectif de recherche comme celui-ci, normalement, on s'attend à ce que ça maximise la possibilité d'appliquer les connaissances qui vont être générées dans le processus. Donc, améliorer le potentiel d'action de la collectivité, la composition même de notre collectif, fait en sorte qu'on a beaucoup d'espoir à cet égard-là. 21e, le processus traduit un engagement de la part des chercheurs et des participants de la collectivité à mettre en œuvre des interventions individuelles, sociales ou culturelles suite à ce que la recherche aura permis d'apprendre. Encore, je vais passer sur les dernières. Voici la distribution pour l'ensemble de cette dimension-là. C'est plus égal que certaines qu'on a vues précédemment. Et la dernière dimension, sur la nature des résultats de la recherche. Les participants de la collectivité profitent des résultats de la recherche. Quelqu'un a tout simplement dit « yes, they do ». 23, on se préoccupe ou on convient expressément de reconnaître et de régler de manière franche et honnête les divergences possibles entre les chercheurs et les participants de la collectivité quant à l'interprétation des résultats. Alors, vous voyez ici la distribution, le groupe de décideurs sent qu'il y a moins la possibilité que ça n'a pas été clarifié, en fait. C'est ce qu'on espère faire plus tard dans la journée avec le partenariat de recherche. Avant-dernière question, on se préoccupe de la propriété des données produites par la recherche et il existe une entente explicite à ce sujet entre les chercheurs et les participants de la collectivité. Quelqu'un a dit, ça, c'est non applicable, il est encore trop tôt pour le dire. Et en effet, on espère pouvoir convenir de ces questions-là un peu plus tard dans la journée, mais surtout à l'automne, parce que dans le protocole de recherche qu'on conviendrait ensemble, il y aurait des choses très précises qui viendraient définir et baliser ces dimensions-là. Dernière question, on se préoccupe de la diffusion des résultats de la recherche et une entente explicite existe à ce sujet entre les chercheurs et les participants de la collectivité. Ce n'est pas facile de répondre parce que nous sommes au début. C'est resté un peu flou pour moi. Encore un peu le même commentaire que la question précédente. Voici la distribution des résultats pour cette dimension-là, nature des résultats de la recherche. Et on voit que les décideurs, ici, plusieurs d'entre eux ont dit « on n'a pas de résultats encore ». Donc souvent, c'était tout simplement non applicable. Par contre, les chercheurs voient l'effort qui est mis sur le processus lui-même et en application des connaissances, un des principes, c'est que le processus même qui conditionne la création de nouvelles connaissances, comment ce processus-là est organisé, bien, va avoir une influence sur l'application des connaissances. Alors que les décideurs, bien, un résultat, ce n'est pas un processus. Donc, on espère éventuellement que ces deux visions-là vont pouvoir se rejoindre. Au total, voici la distribution pour l'ensemble des 25 questions. Questions une par une, et puis par groupe et par bloc. Alors, je vous remercie. Avez-vous des questions ou des commentaires?
Oui, j'ai un petit commentaire pour la diapositive qui marque total. Ben deux commentaires, oui, celle-là. Ouais. Excuse-moi. Il y a une chose que j'aimerais tout de suite mettre au point, là, si on est pour continuer à travailler ensemble. Utilisateur de service, ça m'énerve.
OK.
Personne en rétablissement, j'aime bien. D'accord. J'utilise rien, là. On se remet, nous autres. La deuxième des choses, ce que je me rends compte avec un graphique comme ça, c'est que nous, les personnes en rétablissement, on a des grandes attentes.
Oui.
Parce que si j'étais un chercheur, je serais un peu inquiet.
Oui, je le suis.
Oui, j'imagine. Parce qu'on a des grandes attentes. Oui. On mise beaucoup là-dessus. Mm. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est ça, il y a des grandes attentes de notre part. On va participer du mieux qu'on peut. En tout cas, dans mon cas, je suis sûr que je vais participer du mieux que je peux. Mais,
Donc, si tout le monde est d'accord, on va utiliser l'expression « personne en rétablissement », ce qui est tout à fait logique. Cette expression-là débute par le mot « personne », ce qui va un petit peu, on se rappelle le combat des personnes handicapées, par exemple. Puis c'est une expression qui semble faire son chemin. Et puis d'ailleurs, j'avais demandé aux traducteurs que lorsque viendra le temps que tes conférenciers anglophones présentent l'expression « survivor »,« consumer survivor » en français, « consommateur survivant », alors c'est encore moins évocateur. Donc, j'ai demandé à l'équipe de traduction éventuellement de traduire « consumer survivor » par « personne en rétablissement ». Donc, il y a beaucoup d'espoir de ce groupe-là, alors que du côté des chercheurs, on pourrait dire qu'il y a un certain scepticisme de bon aloi jusqu'à maintenant qui est, auquel
question un peu sur le fond. Oui, j'avais senti un peu un paradoxe à la première rencontre. Je le sens encore. Puis en tout cas, moi, ça m'a un peu mal à l'aise par rapport à la démarche. Surtout de voir qu'il y a un focus group avec les utilisateurs. Puis on se questionne sur une étude ou sur une recherche qui n'existe pas encore. Si je le sens encore, je me dis, dans le fond, j'espérais que le focus group, peut-être initialement, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait s'intéresser comme sujet de recherche, c'est quoi le questionnement qu'on a, c'est quoi le questionnement qu'ils ont, plutôt que déjà se questionner sur le processus d'une étude qui n'est pas encore du tout défini. Je ne sais pas, je sens encore ce mal à l'aise-là, puis là, j'écoute les résultats, je me dis, mais c'est sûr, on parle d'une étude qui n'est pas là. C'est un peu bizarre.
Oui, tu as raison, Luc, mais je dois dire que c'est ce qui est ressorti aussi en focus group. Demander un peu aux gens qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'une recherche aborde comme thématique. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que les gens souhaitaient que moi, je vous propose. Moi, quels pouvaient être mes intérêts. C'est ce que je vais parler un petit peu plus tard après la pause. Les gens, il n'y avait pas nécessairement d'idées qui leur venaient à l'esprit spontanément. On souhaiterait qu'une recherche porte sur ceci ou sur cela. On aimerait mieux que le chercheur qui a initié tout ça, en l'occurrence moi-même, Jean-François, propose une thématique de recherche pour qu'on puisse ensuite en discuter.
I think you should also mention that this is a baseline measure and that we'll be looking at these numbers over time.
Oui, Larry nous rappelle que c'est un peu une mesure du temps zéro pour pouvoir reprendre un peu cette mesure-là à mesure que le processus va s'enclencher. Mais on est au tout début, en effet. Mais c'est une des, Luc, si je peux me permettre, en application des connaissances, c'est une des dimensions très importantes de réfléchir au processus lui-même. Puis, pour ensuite mettre de la chair autour de ce squelette-là.
Si on partirait le processus normal d'une recherche, qu'on se questionne sur quoi qu'on veut travailler, puis qu'on étudie en parallèle ce processus-là, je suis bien d'accord. Mais c'est comme si on a une forme, mais il n'y a pas de contenu. Mais en tout cas, je me sens un peu dans ça. Je suis peut-être le seul, mais je trouve ça bizarre.
Merci.
Peut-être pour compléter un peu à ce niveau-là, je pense aussi que ce qui ressort, c'est que, en fait, il y a en fait un projet de recherche puisque on est à l'intérieur d'un processus qui est examiné actuellement d'un point de vue de développement de projets de recherche. Puis, je pense que comme chercheur, c'est un peu déstabilisant quand on dans la mesure où est-ce que certains d'entre nous on devient objet de recherche aussi.
Oui.
Alors, ça, c'est un rôle dans lequel on n'est vraiment pas habitué. On est habitué d'être de l'autre côté, puis de définir l'agenda de recherche, des questions, puis de regarder. Alors, mais là, on est également regardé, puis on est invité aussi peut-être à peut-être penser un peu les choses un peu différemment aussi à l'intérieur de ça. C'est un peu déstabilisant, je vous dirais.
Ah oui? Parce que j'expliquais aux personnes en rétablissement que pour les chercheurs qui ont signé le formulaire de consentement, c'était probablement la première fois qu'ils consentaient à être étudiés. Est-ce que je me trompe, Alain? Est-ce que c'était la première fois?
Dans le cadre d'un projet... Oui, effectivement, c'était la première fois. C'est bien particulier comme... de ce côté-là, du formulaire de consentement. Ouais.
Je me permettrais d'interrompre la discussion parce que je ne veux pas trop empiéter sur le temps, puis je sais que les pauses sont nécessaires, puis je ne veux pas les retarder indûment. Alors, peut-être on pourrait poursuivre ces discussions-là à l'intérieur du focus group ou à la pause, parce que je crois que tout le matin sert à élaborer cette proposition-là. Et j'inviterai M. Larry Davidson à se joindre à nous.
Merci.